Est-ce qu'ils sont ils, elles, là? Salut les pirates, est-ce que vous m'entendez?
Croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus le droit de rêver?
Prêts les enfants?
Oui, capitaine!
J'ai pas entendu!
Oui, capitaine!
Wow!
Radio.
Radio.
Radio. Radio.
Pirate!
Bonsoir les pirates. On est là pour parler animaux de compagnie pendant une petite heure. Moi c'est Claire, et lors de la première émission qu'on a fait sur la santé mentale, j'ai mentionné que je vivais avec deux lapins, qui m'aidaient à survivre au confinement, en gros. Du coup, quelqu'un dans le chat a mentionné qu'il ou elle allait finir par en adopter un à cause de moi, sûrement sur le ton de la plaisanterie, mais sait-on jamais. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne excuse pour vous parler d'adoption, de lapins et d'autres animaux en tout genre qu'on peut inviter dans notre quotidien. Pour en discuter avec moi, j'ai une camarade pirate, Elvire.
Bonsoir Claire. Alors moi, vous m'avez entendu sur la santé mentale également. Et je suis propriétaire, c'est un sale mot. J'ai avec moi deux cockers anglais, Olaf et Padawan, un chat Lucifer. Et j'avais avant, qui est resté chez mes parents parce qu'il a l'habitude de la campagne, Elliot, un petit Carlin.
Et notre invité pour la soirée, Nepsi, si tu veux te présenter.
Bonsoir, ouais, donc c'est Nepsi. Moi je vis plutôt à la campagne, qui m'a permis d'accueillir deux chiens, deux petites chiennes qui sont arrivées de Roumanie. Et avec ça, ça fait maintenant, et j'y pensais tout à l'heure, ça fait maintenant plus de la moitié de ma vie que j'ai des lapins. Et donc actuellement j'en ai également deux, donc Pipuche et Mimoute. Et mes chiennes c'est Coco et Patate, voilà.
Merci à vous deux de vous joindre à moi. Je n'ai pas présenté les noms de mes lapins. Voilà, donc je vais le faire. J'ai Noun et Robinson, très important. Robinson ou le petit, je ne sais jamais comment l'appeler. Bref. Du coup, ce soir, on va parler animaux de compagnie et on va vous donner des conseils. Je voulais faire un petit disclaimer avant qu'on se lance dans le cœur du sujet. Le but, ce n'est pas de juger ce que vous avez pu faire si vous avez acheté un animal de compagnie dans des conditions pas top, etc. Voilà, ce n'est pas notre souci aujourd'hui. Mais il y a des arguments à prendre en compte en faveur du bien-être des animaux, et notre but, c'est d'apporter des informations pour que vous puissiez à l'avenir faire des meilleurs choix ou que vous puissiez encourager les gens autour de vous à prendre les bonnes décisions. Du coup, on va commencer à vous expliquer pourquoi il s'est mis un peu mieux d'adopter que d'acheter son animal, et puis on va essayer de faire un petit point sur les choses auxquelles c'est cool de penser avant de commencer les démarches d'adoption.
Radio.
Radio.
Radio. Radio. Radio. Pirate!
Si vous voulez un animal, vous allez penser à plusieurs possibilités. Du coup, on va parler adoption dans un second temps, mais en gros, la première possibilité à laquelle on pense naturellement, c'est l'achat. Du coup, pour acheter un animal, c'est soit Le Bon Coin, les animaleries ou les élevages. Le Bon Coin, de façon générale, ou les particuliers, c'est pas tip-top. Dans la plupart des cas, vous connaissez absolument pas les personnes, vous savez pas d'où viennent les animaux, vous connaissez pas du tout les conditions de vie dans lesquelles ils ont été élevés, les mères ou les petits après, entre la naissance et l'adoption. Du coup, niveau bien-être animal, zéro connaissance. Ils peuvent avoir des maladies quand vous les adoptez. Moi, je connais des gens qui ont adopté comme ça des animaux dans des élevages un peu moisis. Et du coup, leur chien était déjà mort limite quand ils l'ont adopté, donc c'est pas joyeux. Et puis aussi, ça peut être des animaux qui viennent d'élevages illégaux, voire être des animaux volés. Donc bon, c'est pas l'idéal. Les animaleries, on pourrait se dire que c'est vachement mieux parce que du coup, c'est leur métier, donc au moins, ils font ça bien. Sauf que non. Les animaux sont vendus à des prix ridicules parce qu'ils viennent d'élevages low cost. Les femelles, elles servent juste à faire porter sur porter sur porter sur porter dans des conditions absolument misérables. Moi, je sais que j'ai une tante qui a récupéré une chienne comme ça, et la petite, elle a vécu toute sa vie en cage. Et elle connaissait. Enfin, du coup, elle a mis du temps à se réhabituer, à voir des gens, à marcher, juste marcher, se balader, etc. Voilà, donc ils peuvent vivre dans des petites cages toute leur vie, c'est des trucs absolument atroces. Du coup, il y a de la maltraitance avant même d'arriver à l'animalerie. Et après, en magasin, c'est pas franchement mieux. Je sais pas si vous avez déjà été à Truffaut ou à Jardiland, mais bon, voilà. On voit les animaux dans des toutes petites cages. Il y a les oiseaux qui sont dans des vitrines minuscules, super nombreux, etc. Et vu la médiocrité des conseils qui sont donnés en animalerie, on peut pas considérer qu'ils savent vraiment s'en occuper. Les exemples que j'ai, c'est les hamsters syriens, par exemple, qui sont vendus en duo de frères ou sœurs à des gens. Sauf que c'est des animaux qui vivent seuls. Et du coup, ils sont vendus en étant jeunes. Donc, il n'y a pas de souci parce que c'est encore des bébés. Et dès qu'ils passent l'âge adulte, en fait, ils veulent vivre seuls. Enfin, ils ne peuvent pas être à deux parce qu'ils n'aiment pas être à deux. Et du coup, les gens, ils reviennent chez eux pour trouver un hamster en train de manger l'autre. Ce n'est pas l'idéal. Et sinon, il y a aussi les problèmes de rongeurs qui sont mal sexés. Et du coup, ils disent qu'ils vendent deux femelles. Et en fait, non, c'était un mâle et une femelle. Et les gens se retrouvent avec des déportés sans savoir quoi en faire. Donc, voilà, les animaleries, c'est pas tip-top. De manière générale, de toute façon, les animaux, c'est un produit en animalerie. Hein. Comment on peut prétendre bien traiter ces animaux quand le but, c'est de répondre à des lois commerciales, etc. Et la grande question, qu'est-ce qui arrive aux invendus? J'ai lu des commentaires, des témoignages de personnes. C'est pas joyeux. Hein. Je vous laisse imaginer. C'est pas la joie. Du coup, pour les rongeurs, les oiseaux, les poissons, la chasse, c'est souvent l'un ou l'autre, particulier ou animalerie. Mais pour les chiens, il y a aussi les élevages. Du coup, l'élevage, ça pose la même problématique que l'animal produit de consommation. Hein. On est sur une radio qui se veut anticapitaliste, donc voilà, je peux dire directement que ce truc-là pose problème. Les femelles qui enchaînent les grossesses, etc., c'est pas bon pour leur santé, c'est pas cool. Et le fait de vendre des êtres vivants, c'est un peu moyen quand même. Mais après, certains pourront argumenter qu'il y a des élevages mieux que d'autres. Il y a des petits élevages familiaux à taille humaine où les femelles n'ont que quelques portées et elles vivent bien. Mais du coup, voilà. Mais mettons que vous ayez fait vos recherches, que vous êtes sûr à 100% que vous êtes dans un élevage cool, bien, avec des gens bien. Il y a quand même le problème que les élevages, c'est des chiens de race. Et la race, c'est pas top. Du coup, les races de chiens, ça pose problème pour deux raisons, selon moi. Dans un premier temps, ça implique le maintien de certains traits physiques qu'on estime beaux. Enfin, c'est pas toujours beau, mais qu'on estime bien. Mais en fait, ils sont pas forcément bons pour les chiens du côté santé. Du coup, on pense évidemment aux photos des crânes de Carlin ou de Pug qu'on a vu où ils ont le crâne totalement difforme.
Oui, ils ne sont pas faits pour la vie, ces chiens-là.
Voilà.
J'en ai un. Non, mais ils sont pas.
Et du coup, tous les chiens, en fait, avec le nez aplati, c'est un peu ça. Ils ont tous des problèmes de respiration, soit les boxeurs ou les bulldogs, etc. Il y a aussi les chiens saucisses, les teckels, où ils sont le plus longs possible. Et du coup, ils ont des problèmes de dos, parce que oui, en fait, c'est pas magique que ça tienne. Et il y a des trucs un peu atroces, genre le cavalier King Charles qui a été reproduit pour être petit et mignon, pour avoir une petite tête, mais du coup leur crâne est trop petit pour leur cerveau. Donc a priori à 6 ans, il y a 70% qui développent ce problème-là, où en gros leur cerveau est écrasé par leur crâne, et du coup ça a des symptômes très variés, mais le pire, c'est le chien qui hurle de douleur toute la journée, parce que bah, en fait ils ont mal, parce que bah, on n'est pas fait pour avoir un crâne trop petit. Hein, même nous, donc voilà, c'est pas cool. Et du coup, le deuxième problème qui découle du premier, du maintien des critères comme ça, c'est que pour maintenir ces critères de beauté ou de pureté, on fait reproduire les chiens les mieux, et on refuse que des chiens différents entrent dans les lignées, etc. Et du coup, on se retrouve avec des poules génétiques super appauvries, et du coup, ça va entraîner des risques de maladies, etc., qui augmente, parce qu'au final c'est les mêmes chiens qui vont se reproduire, et du coup enfin voilà, on connaît les problèmes de reproduction trop resserrés. Alors je vous raconte des atrocités sur les races. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que les gens achètent des chiens de race? Déjà, dans un premier temps, c'est aussi pour ça que je voulais en parler, c'est parce que on réfléchit pas forcément à tout ça quand on n'est pas investi et qu'on voit pas forcément les problèmes si on nous dit pas qu'il y a un problème. Donc voilà, il faut le mentionner. Et aussi, pour beaucoup de gens, choisir une race, bah en fait, c'est choisir un caractère particulier. Parce que du coup, on nous dit, telle race, elle est censée être sociable, telle race, elle est censée être calme, telle race, elle va être obéissante, etc. Sauf qu'en fait, c'est ce qu'on nous apprend, mais en fait, les études ont démontré que la race ne fait pas le caractère du tout. De base, deux chiens d'une même portée vont être très différents. Hein. Si vous avez déjà vu des portées de chiots, vous avez un peu les extrêmes dedans. Et ensuite, les études, du coup, parlent plus de traits similaires que de caractères, parce que du coup, c'est plus des grands traits. En gros, sur une échelle, ils vont être plus d'un côté ou l'autre de l'échelle. Mais seulement 15% de ce qui est affirmé peut être expliqué par l'ADN. Et encore, il y avait des critiques après sur ces études pour dire que 15% c'était peut-être un peu trop poussé et qu'on n'était même pas sûr que ça aille jusque-là. Donc après, on peut aussi se demander si c'est pas le fait que certaines personnes qui attendent certaines choses achètent les mêmes chiens et du coup, qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis, qu'est-ce qui vient vraiment de la race ou qu'est-ce qui vient de la façon dont on prend soin de son chien, quoi.
Ouais, et moi je voudrais juste ajouter justement que quand on se prépare à accueillir une race spécifique, qu'on imagine, enfin voilà, on est abreuvé d'informations sur ces races, tout ça, on a donc beaucoup plus d'exigences concernant peut-être l'animal qu'on va accueillir, et donc ça peut y avoir aussi beaucoup plus de déceptions, et c'est aussi pour ça qu'on retrouve des chiens de race également en refuge, alors que pourtant ils ont coûté cher tout ça, donc on pourrait se dire les gens sont au moins attachés à cet argument, mais en fin de compte pas du tout, et quand il y a déception, bah, y a abandon, donc ouais, il vaut peut-être mieux essayer de se diriger vers des associations, vers des chiens un peu des chiens bâtards, hein, sur lesquels on connaît le caractère parce que l'association fait ce travail-là, et donc on a moins de chances d'être d'être déçu, puisqu'on peut aussi le sélectionner comme ça. C'est des chiens qui sont souvent adultes, pour lesquels on connaît leur réaction envers les petits chiens, les grands chiens, les enfants, tout ça. Donc c'est peut-être plus facile, et ça engendre probablement moins d'adoption.
Du coup, ces études-là montrent
d'abandon,
aussi, ces études-là montrent aussi que du coup il y a des chiens de race qui sont abandonnés à cause de ce que les maîtres se disent qu'ils vont avoir, et en fait non. L'idée c'est les chiens c'est des individus, les animaux de façon générale, hein, c'est des individus, et en gros, ils ont des caractères qui leur sont propres, ils sont tous différents, et ils seront jamais parfaits au sens parfait.
Il faut un peu faire le deuil du chien parfait, enfin de l'animal parfait, parce que finalement, c'est ça aussi qui se passe, et on se rend compte qu'au quotidien, ça correspond pas forcément à toutes les images qu'on s'est imaginées, enfin toutes les choses qu'on a vues à propos de ces races.
Oui, moi je voulais aussi intervenir, parce que je suis là, mais c'est un peu fait ce que je dis et pas ce que je fais, parce que un des cockers anglais que j'ai, c'est mon compagnon qui l'a acheté en salon pire idée ever, et les deux autres viennent d'un élevage. Je peux pas plus parler pour Elliot, parce que c'est plus compliqué pour Padawan, et voilà, on disait tout à l'heure les petits élevages familiaux. En tout cas, moi, j'ai toujours contact avec mon éleveur, et la mère d'Eliott a fait que deux portées. Et après, il a considéré que non. Et puis pour les poules, justement, qu'on parlait de génétique, lui, il est allé jusqu'en Allemagne pour faire reproduire ses chiens, justement, pour éviter les risques de consanguinité encore plus au carlin. Et c'est pas du tout pour faire la promotion et pour m'excuser, je l'ai fait, mais la première fois que je l'ai contacté, je suis restée 3 heures au téléphone avec lui. Il a voulu que je vienne, ce qui est normal. On est resté 5 heures à parler, et lui, il est du genre, si je passe pas autant de temps avec les gens, et si les gens me plaisent pas, quitte à perdre de l'argent, je préfère garder mes chiens. Après, tout le monde n'est pas comme ça, et c'est pas une promotion forcément de l'élevage. Et il m'a dit aussi, si un jour vous ne pouvez plus garder Elliot, je vous poserai aucune question, mais vous me le ramenez. Je veux pas avoir mon chien sur le bon coin.
Mmh. Ouais, c'est ce que je disais. En fait, c'est ce que tu as fait, du coup. Il y a moyen, il y a toujours des personnes bien, en fait. Et du coup, si tu fais toutes les recherches qu'il faut, etc., tu peux trouver un élevage. Mais du coup, moi, je déconseille, parce que ça enlève pas le caractère que les carlins, ce que tu disais, c'est pas fait pour vivre.
Non.
Et voilà. Et du coup, c'est encourager le fait de produire un chien qui vivra mal. Moi, c'est juste ce côté-là qui me paraît un peu absurde, quoi.
Après, moi, voilà, je voulais un carlin. C'est vrai que c'était un caprice et j'ai pas pensé à la vie après. Je cherche pas qu'on m'excuse. Hein. Non, j'ai pas pensé au carlin là. Après, on fait ce qu'on peut, on ne le sort pas. Enfin, on s'adapte en fonction on s'adapte en fonction d'Eliott. On va pas aller en vacances dans le sud ou à Marrakech ou en plein soleil. Enfin non, on va dans des régions un peu plus tempérées parce qu'on sait très bien que sinon notre chien ne va pas suivre. Et aussi pour deux chiens ne sont pas les mêmes. Voilà, j'ai deux cockers anglais. Un qui est mon compagnon et on l'a récupéré de son ex et un qu'on a eu en élevage. Et là, il y en a un, les deux ne s'entendent pas du tout. Il y en a un qui est adorable, un peu l'idiot du village. C'est le ravi de la crèche, il est simplet. Et l'autre, on le surnomme simplet et c'est grognon. Non, et grincheux. Parce que l'autre, ça fait depuis août, ça fait la quatrième fois qu'il me mord et deux fois que je vais aux urgences à cause de ça. Et là, voilà, moi, je l'ai pris en disant « Ah non, mais voilà, ils vont bien s'entendre et tout. Bon, on n'a pas de jardin, mais on va les balader et tout. » Et j'ai peut-être plus pensé à moi qu'au chien. Et puis là, on va devoir penser à une solution plus... vu qu'on n'arrive pas à le placer nulle part, une solution plus définitive pour ne plus risquer les morsures. Donc, on en parlera un peu plus tard dans l'émission, mais il y a des choses à vraiment penser avant d'avoir un animal.
Et puis aussi, on parle d'un acte assez ponctuel, en fait, dans nos vies. C'est-à-dire qu'on ne va pas adopter des milliers d'animaux, sauf avoir un refuge et tout. Donc, c'est aussi peut-être un moment idéal pour essayer de se mettre un peu en recul de l'exploitation animale, même si, effectivement... Je suis persuadée qu'il y a des éleveurs qui sont, comme tu le disais, Elvire, très investis et très, très intéressés et tout. Et ça, c'est vraiment pas un souci. Mais ouais, du coup, comme c'est des moments plus ponctuels dans nos vies, contrairement à la consommation, j'ai envie de dire, des animaux et tout, et à leur exploitation, ça peut être un instant privilégié pour réfléchir à ça et se dire... Je peux peut-être tenter l'aventure avec des chiens d'adoption, quoi, de refuge.
Exactement, parce que moi, j'ai aucune rationalité quand il s'agit d'animal. Maintenant, je réfléchis avant, mais voilà. Parce que le chien, je l'ai eu à 26 ans et j'ai toujours voulu un chien, mais voilà, il faut vraiment prendre du recul et c'est un peu fait ce que je dis et pas ce que je fais.
Non, mais on est aussi, construit par la société et tout, on a été élevé là-dedans et dans le fait d'avoir des chiens facilement aussi, c'est jamais plaisant non plus d'avoir recours à une... Association, c'est assez intrusif aussi. Enfin, il y a pas mal de questions, tout ça. Donc, c'est pas non plus une démarche qui peut se faire naturellement. Enfin, c'est
Ça vient aussi de ton parcours militant, je pense, parce que, enfin, moi, je sais que c'est, enfin, la question animale, c'est quelque chose qui a été très tôt dans mon parcours militant. Et du coup, je suis passée par beaucoup d'étapes. Je suis passée par l'étape où je me dis, les petits refuges, c'est bien, genre même à me dire j'aimerais bien avoir un élevage parce que le premier chien que j'ai eu avec mes parents, c'était un chien de race. Et je m'étais dit, oh, j'aimerais bien un élevage de ce chien-là, mais genre un petit truc familial, un peu celui où t'as appris ton chien et lui dire, tu vois. Et après, je suis passée à la SPA, c'est bien parce que j'y réfléchissais régulièrement et c'était quelque chose sur lequel je lisais beaucoup, etc. Donc c'est ça aussi, c'est être au courant pour pouvoir réfléchir différemment, quoi.
Et tu parlais d'intrusif, moi, parce que là j'ai un chat qu'on a aussi acheté, mais avant on avait adopté un chat qui est décédé malheureusement avec mon concubin, et mon éleveur pour Elliott a été beaucoup plus intrusif. Je dis, quand on reste 3 heures au téléphone et 5 heures là-bas, c'est parce qu'il posait des questions pour être sûr que la SPA. mais la SPA a fait son travail, ils sont venus faire une visite, on va en parler peut-être un petit peu plus tard.
Bah du coup, ouais, si on n'achète pas un animal, du coup, on passe par une association. Il y aura quand même un prix à payer pour l'animal parce que du coup, généralement, ça correspond aux frais que l'association a investi, notamment pour la stérilisation, parce que c'est aussi le truc qui est bien dans les associations, c'est qu'on a des animaux stérilisés. Et par contre, il y a beaucoup d'associations différentes. Moi, tu disais que la SPA ne demandait pas grand-chose. Moi, j'ai connu des gens qui râlaient parce que la SPA demandait trop de choses, des choses qui leur paraissaient inadaptées. Mais en fait, je crois que ça varie selon la SPA, peut-être selon le moment, s'ils ont des gens ou s'ils n'ont pas de gens, et selon les assos. Donc si jamais il y a une asso qui vous paraît trop exigeante ou qui a des exigences absurdes, déjà, ce serait bien de genre prendre un moment, parce que c'est des gens qui ont l'habitude de bosser avec des animaux, donc peut-être que ça vous paraît absurde, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. Mais vous trouverez aussi forcément une asso qui a moins d'exigences et qui pourra vous convenir, quoi, je pense.
Mais il faut qu'ils posent des questions. Il faut aussi s'inquiéter quand on ne pose pas beaucoup de questions. Mmh. Après, moi, c'est parce que quand j'étais passée au gris avec mon éleveur, ça me paraît normal, les questions de la SPA, en fait. Voilà. Mais il faut aussi s'inquiéter quand il n'y a pas trop de questions.
Bah après, la SPA, c'est un peu... Enfin, moi, je sais que quand j'avais été adopter le chien avec mes parents, enfin, après, je ne m'en souviens pas totalement de ce jour-là, mais ils ne nous ont pas demandé grand-chose. On a juste eu une visite de contrôle un an plus tard. Et bah après, je pense qu'ils essaient de... Ils jugent à la tête aussi. Genre, j'étais avec ma mère, on était... voilà, on a adopté des chiots parce qu'ils avaient des chiots. On les avait appelés avant pour savoir, etc. Donc, je pense qu'ils ont su qu'on était intéressés. Et on avait eu l'air honnête. Donc, je pense qu'ils se sont dit que...
Oui, et puis aussi, avec des chiots, il y a moins de risques. Enfin, disons que oui. C'est pas immédiat, en fait, le caractère. Et, on se dit que les gens qui adoptent des chiots savent que ça va être l'apprentissage... la propreté, tout ça avant, enfin, va y avoir quelques mois un peu d'adaptation plus que qu'avec les chiens adultes desquels on attend peut-être plus de d'adaptation et tout, et que ça se passe plus vite.
Mais du coup, c'est vrai que la SPA, moi je trouve qu'il pose pas beaucoup de questions, même s'il y a peut-être des SPA où c'est un peu plus regardant. Mais comme tu disais, les petites associations, moi je trouve ça bien parce que du coup ils peuvent vraiment connaître l'animal parce qu'ils n'ont pas des locaux, donc les animaux sont en famille d'accueil. Et du coup les gens les connaissent bien. Et c'est vraiment bien d'avoir un. Bah, du coup, tu peux vraiment connaître ton animal avant de l'adopter.
Ouais, moi c'était vraiment un critère genre essentiel pour l'adoption de mes chiens. Parce que j'avais déjà mes deux lapins, et donc il était hors de question que j'accueille un chien qui les mettrait en danger, parce que voilà, c'est leur vie avant tout, quoi. J'avais pas envie qu'ils se sentent menacés sur leur territoire, tout ça. Donc ouais, de savoir qu'il y avait des gens qui avaient accueilli les chiens que j'aimais, enfin que j'envisageais d'accueillir, c'était quand même très rassurant, quoi. Et c'est souvent des gens qui en plus ont eux-mêmes des animaux, enfin, il y a toute une espèce de batterie de tests qu'ils font passer au chien pour s'assurer qu'il va correspondre à la maison dans laquelle il va atterrir.
Du coup, ouais, t'as adopté tes lapins et tes chiens, t'as peut-être un mot à dire sur les assos que t'as suivis, si tu veux en recommander certaines.
Ouais, alors mon premier, enfin la Pipuche, mon plus vieux pépère qui a 9 ans, qui est donc un de mes lapins, ça fait 7 ans que je l'ai, et on parlait justement tout à l'heure du Bon Coin. Moi, Pipuche, je l'ai eu sur le Bon Coin parce que ouais, c'était un sauvetage. Je l'ai vu, je cherchais un lapin à ce moment-là pour accompagner ma précédente lapine Mocotte. Et donc, je suis tombée sur cette annonce. Il avait l'air vraiment très mal en point dans une toute petite cage, pas du tout entretenue. J'ai appris par la suite qu'en fait, il appartenait à une enfant qui avait 3 ans, bah forcément, c'est une enfant qui ne pouvait pas s'en occuper, hein, matériellement, voilà, elle n'avait pas les réflexes, elle n'avait pas l'apprentissage, en fait, pour bien le soigner. Donc ouais, je l'ai eu sur le Bon Coin. Ça a été compliqué aussi d'accueillir un animal dans ces conditions, parce qu'il avait vécu donc 2 ans dans une toute petite cage. Il avait des stéréotypies, donc des gestes répétitifs qu'il faisait pour se calmer ou juste pour passer le temps, en fait. Donc, il grattait vraiment beaucoup. Donc, ça, c'était quelque chose qui peut être... Enfin, il faut le savoir, quoi. Ça peut être pénible les premiers temps, parce qu'un lapin qui gratte alors qu'il a un mode de vie tout à fait libre et tout, on peut se dire, c'est saoulant au quotidien, quoi. Mais voilà. Et sinon, ma deuxième lapine, donc Mimout, elle vient de l'association Annie Nounou. C'est des gens qui partaient à l'étranger et qui s'en sont séparés. Donc, c'est une lapine de race, mais de seconde main, comme j'ai l'habitude de le dire. Et ils ont été genre vraiment parfaits, Annie Nounou. Donc, je les recommande largement. Ils sont, ils sont très investis et ils sont prêts à faire des pieds et des mains pour bien placer les lapins, ce qui est parfait. Et mes deux chiennes, ensuite, c'est l'association Orphée. Donc, on en parlera peut-être un peu plus... plus loin dans l'émission, c'est des chiennes qui viennent de Roumanie. Et donc, l'association fait pas mal de sauvetage. Ils rapatrient quelques chiens de temps en temps. Ils essayent de leur trouver une nouvelle vie dans de meilleures conditions.
Ok. Bah, du coup, moi, les assos, je sais plus c'est lesquels pour les lapins. Pour Robinson, c'est Aristopoil que je sais pour Robinson, parce que du coup, c'est une asso récente, enfin, qui fait récemment des rongeurs. Avant, ils faisaient que des chats. Et du coup, lui, bah, en fait, quand tu parles de ton lapin qui a vécu en petite cage, j'avoue que je sais pas trop comment il a vécu avant Robinson. Et par contre, il a été, pendant le premier confinement, il était dans l'asso, parce que du coup, il a été récupéré juste avant le confinement. Et du coup, peut-être que c'est là qu'il a qu'il a passé ces moments où il apprend à vivre presque en liberté, quoi.
Ouais.
Parce que du coup, avant, il était aussi avec un enfant qui lui a cassé une patte et il n'a plus que 3 pattes. Petit.
Oh.
Mais du coup, voilà. Les lapins, c'est pas fait pour les enfants. Faut le dire.
Ouais. C'est vraiment des compagnons exigeants, enfin, où il faut être quand même assez présent et assez. C'est des animaux assez compliqués à lire. En fait, quand on n'est pas habitué.
Et en fait, c'est chiant aussi à. Il faut nettoyer l'enclos, il faut nettoyer la litière, etc. En fait, limite, prendre un chien de petite taille, je pense que c'est mieux pour un enfant parce qu'il pourrait être plus copain avec lui. Et en même temps, il y a moins de nettoyage à faire, je trouve.
Oui, c'est vrai.
Donc, à faire, prenez un chien pour les enfants. Et puis, ça marche aussi. Et du coup, ouais, je voulais parler aussi de l'association White Rabbit, parce que j'ai bossé un peu pour eux. C'est un peu particulier, parce que du coup, ils font de la réhabilitation d'animaux de laboratoire.
Uh-huh.
Ouais, mais du coup, pour... Mince, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a le Graal pour les grands animaux. Les chiens. Mais du coup, les chiens, ils sont mis à la SPA après, je crois qu'il y a une... Et du coup, ils font aussi des singes et tout. Et du coup, White Rabbit s'occupe des petits animaux qui n'étaient pas sauvés par le Graal. Du coup, tout ce qui est lapin, rat, souris. Ils ont des furets aussi, je crois. Et ils ont des cochons d'Inde. Et du coup, bon, généralement, c'est des animaux blancs aux yeux rouges. Donc, il faut... faut pas avoir peur de ces animaux un peu flippants, des fois.
Il ne faut pas se baser que sur le critère esthétique.
Voilà. je voulais adopter avec eux au départ. Et en fait, j'ai cédé... J'ai cédé beaucoup trop vite à d'autres lapins parce que je n'ai aucune volonté non plus. Donc voilà.
Mais c'est vrai, moi aussi, c'est quelque chose que j'envisage avec White Rabbit quand on aura la place d'accueillir un autre grand lapin.
Ouais, c'est ça, c'est des grands lapins. Ouais. Mm. Ils sont super chouettes. Et du coup, ouais, moi, du coup, j'ai fait famille d'accueil au départ pour Noon. Enfin, je m'étais proposée comme famille d'accueil. Mais vu que j'ai zéro volonté, dès le premier jour où elle est arrivée, j'ai demandé à la nana comment ça s'est passé pour l'adoption. Voilà. Mais du coup, la plupart des associations ont toujours besoin de familles d'accueil, notamment pour les chats. Il y a pas mal d'associations qui ont plein de chats. Du coup, si vous avez la possibilité d'adopter, enfin, si vous n'avez pas la possibilité d'adopter un animal pour de bon, mais que vous voulez quand même avoir une boule de poils dans votre quotidien, essayez de vous rapprocher des associations proches de chez vous. Parce que ça peut être chouette d'être famille d'accueil, même si quand on n'a pas de volonté, ça finit par être famille permanente, quoi.
Mais c'est vrai qu'en plus, ponctuellement, ça peut être super intéressant parce que les associations sont très présentes et c'est eux qui prennent en charge tous les frais. Donc, frais de vétérinaire, frais de nourriture, c'est eux qui gèrent tout ça. Donc voilà.
Ouais. Ouais, et du coup aussi, quand vous partez en vacances et tout, l'association peut les refiler à une autre personne de l'association en attendant, genre pendant quelques semaines, quoi. Donc c'est aussi... Pour les gens qui ont envie de garder leur liberté tout en ayant un animal, ça peut aussi être pratique.
Ouais.
Du coup, voilà, c'est ce qu'on avait à vous dire sur où trouver votre animal. J'espère que le message de Adopt Don't Shop est bien passé, parce que c'est ça que je voulais surtout dire. On va faire une petite pause musicale avec Soul par DJ Quads, et on revient juste après avec quelques recommandations sur les choses auxquelles penser avant d'adopter. Echoes the same from my soul.
Eh bien, après cette petite interlude musicale, on va passer aux choses auxquelles penser avant d'adopter. Là, on vient de vous expliquer un petit peu comment on peut adopter. Et là, parce que, comme je l'ai dit, un petit peu, il faut vraiment réfléchir. Il ne faut pas se laisser prendre par les sentiments, même si c'est très compliqué devant des petits chiens-chiens, des chats-chats et des lapins. Mais la chose la plus importante pour moi, c'est prendre un animal qui correspond à notre mode de vie et pas intégrer, et pas que l'animal s'adapte à notre mode de vie. Nous, en tant qu'être humain, on n'aime pas les contraintes, on n'aime pas être forcé. Et bien, c'est pareil pour un animal, bizarrement. Il vient pas dans notre vie, on l'accueille dans la nôtre et c'est lui qui, il a rien demandé, il a pas demandé à être là, donc c'est à nous de l'accueillir et à de réfléchir aux implications que ça va avoir. Parler par exemple d'Eliot, donc il y a un chien brachycéphale, donc il s'est pris une porte quoi, qu'elle est écrasée. Donc voilà, si je veux un chien avec qui je peux faire mon jogging, non, ne prenez pas un carlin, non. Même si le mien, il aime bien marcher à son rythme, il peut faire 3 km avec mon père qui est un géant à côté de lui, il fait presque 2 mètres avec ce tout petit chien. Mais voilà, si vous voulez faire vous balader, ben non, on ne prend pas un carlin, ou alors on prend un petit sac à dos. Voilà, donc il faut vraiment penser au rythme. Moi, je voulais un chien de canapé et Elliot, c'est... adore la nature parce qu'il a été élevé dans la campagne, il a été élevé avec une meute, avec un caniche, il n'a pas peur des gros chiens parce qu'il a été élevé avec un caniche géant, un caniche royal, ouais, plutôt royal et tout. Il faut aussi penser au nombre, faut être assez présent. Il y a des animaux qui n'ont pas forcément besoin d'une grande présence. Les chats sont assez indépendants par exemple, mais pas forcément les chiens. Les chiens... c'est une contrainte, hein. Son bien-être il sera à prendre en compte dans le futur. Les chiens ne sont pas indépendants niveau nourriture, ils ne peuvent pas être seuls 2 jours, ils ont besoin de manger si possible à heure fixe, et donc il faut toujours inclure l'animal dans son planning.
Si, et après les lapins aussi, c'est compliqué là-dessus.
Et les lapins aussi. Donc,
ouais,
et comment dire, si après la fac ou après l'école ou après le travail, y a des collègues qui disent « Allez, on va boire un coup », et puis non, il faut sortir le chien, il faut donner à manger au chien, il faut donc voilà, il faut l'inclure. Donc on rentre chez soi avant de repartir en soirée. Il faut aussi penser au budget avant de faire le pas, parce qu'il y a le budget qu'on met dans l'adoption, mais il y a des dépenses tous les jours quotidiennes. Comme la nourriture, les vaccins surtout, très important les vaccins, la stérilisation si ce n'est pas déjà fait. Confort, il faut qu'il ait un bon... Nous, on aime bien être dans des petits plaids et tout, eux aussi. Mmh. Des petits jouets, parce que nous, on a des choses pour s'occuper, eux aussi. Et il faut prévoir qu'il peut arriver des accidents, des petits bobos. Et ça peut monter très vite les frais de vétérinaire. Elliot, par exemple, comme il a si on le voit de profil, mon chien, il est vraiment plat. Les yeux sont au même niveau que sa truffe. Donc, quand il nifle quelque chose, ses yeux sont... Donc, il a eu un ulcère à l'œil. Enfin, et donc, c'est sûrement une branche qui a fait un petit trou dans son œil. Et ma mère a dû aller voir une dizaine de fois le vétérinaire pour des visites de contrôle. Et à chaque fois, c'est le prix d'une... une visite vétérinaire.
Oh là là, je me disais que mes lapins me coûtaient cher, mais en fait...
Voilà, donc il faut penser à ça. Et un animal, c'est un être vivant, doté de sentiments et de sensibilité. Pour moi, c'est un être, un membre de la famille à part entière. Donc, il vient avec vous tout le temps. Enfin, ça viendra à personne de laisser les enfants toutes les vacances chez quelqu'un d'autre, pendant toutes les vacances à vie. Oui, on peut se faire des petits plaisirs sans un niveau, mais non, on ne l'abandonne pas, parce que bah, c'est plus simple. Ou bien on essaye de trouver des lieux où les animaux, nos amis les bêtes, sont acceptés. Après, on peut aussi se faire des vacances sans animaux, comme on peut faire aussi des vacances sans enfants pour être un petit peu tranquille. Mais il faut s'assurer de leur bien-être. Alors, on peut aller chez les parents s'ils peuvent. Il y a aussi des services de dog-sitter ou de cat-sitter, dont l'application Rover. Moi, on a laissé une nuit Padawan parce qu'on est allé au ski. La sœur de mon conjoint nous avait invité au ski. Bah, il est resté. C'était le seul animal à la maison. Toutes les 5 heures à peu près à nous donner des photos et tout. Mais idéalement, votre toutou, votre chat, il aimerait rester avec vous. Donc, il faut essayer de privilégier les lieux qui accueillent nos amis à quatre pattes. Voilà, il faut vraiment penser que la vie va tourner autour de l'animal. C'est, même si ce n'est pas le roi, faut pas, voilà, parce qu'il y a des règles. Et penser à l'éducation.
Ouais, il y avait. Du coup, il y a quelqu'un sur le chat YouTube qui a mentionné la Jacotte sur Insta qui avait fait très récemment. J'ai vu quand je préparais l'émission. Elle a fait un truc sur le nombre d'heures à consacrer par jour à son animal. Elle a un chien. Et du coup, ce qu'elle disait, c'est que quand elle avait fait des recherches, il disait en gros 30 minutes par jour avec le chien. Et elle disait que c'était ridicule parce que du coup, le chien, t'es sa vie. Et surtout au début, il a besoin de s'habituer à toi, il a besoin d'être 100% avec toi. Et du coup, les gens, la personne sur YouTube voulait qu'on en parle un peu, mais c'est vrai que ça peut faire flipper, mais en fait, ça demande du temps aussi, surtout au début. Oui. Quoi.
Surtout au début, pour la. Moi, on m'a rigolé à la tronche, et bonjour tous les gens qui arrivent, salut la gauche. On m'a rigolé à la tronche quand j'ai dit que je mettais à l'école du chiot mon petit Carlin. On me dit, bah, ça va, un carlin, ça fait pas de dégâts, c'est tout petit, t'as pas besoin de l'élever, tu as quoi, tu vas en faire un chien de garde, ha ha ha. Non, mais maintenant, quand on parle d'Eliott, tout ce qu'on me dit, c'est on dirait qu'il n'y a pas de chien. Bah oui, parce qu'il est petit, il a un caractère de nuisance moins important qu'un grand chien. Mais il est bien élevé et dans le jeu, parce que l'école du chiot, c'est aussi la sociabilisation, vu que c'est des seuls chiens à la maison, mais tout ça dans le jeu. Et pour que lui soit bien, parce qu'il faut qu'il y ait aussi qu'un enfant, comme un enfant, il faut que ça ait des règles.
Ouais, donc, les personnes qui disent c'est petit donc ça fait pas de dégâts, ils ont jamais eu de lapin. Parce que,
voilà.
Ouais, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je conseille aussi, genre quand on accueille un animal, bah, pourquoi pas le faire en fait, au début de ses vacances déjà. Parce que ça permet de s'adapter avec lui sur une semaine, deux semaines, et aussi de prévenir les bêtises qui peuvent être prévenues facilement quand on a l'animal sous les yeux, mais quand on est au travail, c'est tout de suite plus compliqué. Et ensuite, ouais, une bonne année, notamment pour les chiens, je trouve, pour parfaire leur éducation, faire des cours d'éducation canine, c'est super important. Et moi, j'ai plutôt tendance à parler, en fait... Enfin, à dire que c'est de l'éducation pour les humains, plus que pour les chiens. Ouais, parce que c'est vraiment nous qui apprenons à donner les ordres, en fait, pour que les chiens soient, eux, en sécurité, puissent réagir et tout. Moi, c'était quelque chose d'hyper important parce que ma première chienne, donc Coco, qui est roumaine, elle est très, très craintive. Et donc, je voulais lui apprendre les ordres de base pour qu'elle puisse... être maîtrisable et qu'elle se mette pas en danger dans la vie de tous les jours, quoi. Et oui, ça prend du temps.
C'est très important et c'est pour leur bien-être aussi, parce que j'ai parlé malheureusement d'Olaf qui va sûrement connaître un triste destin à 2 ans alors qu'il est en pleine santé. Mais son ex-propriétaire, c'est l'enfant qu'elle avait pas eu avec mon compagnon. Il dormait dans le lit, il avait le droit à tout. Et c'est un chien qui ne comprend pas la frustration, que quand on lui dit non, c'est pas possible, qui est extrêmement jaloux et qui, à cause d'humains qui n'ont pas été dressés, qui n'ont pas été éduqués, va finir. On ne sait plus quoi en faire. Donc, réfléchissez bien. Et oui, l'éducation, c'est 90% d'éducation de l'humain et 10% du chien.
C'est l'avantage des chiens quand même, c'est qu'il y a des trucs pour les éduquer, alors que genre
les lapins chats, non.
Les lapins non.
C'est même pas possible d'y penser pour les lapins.
Bah, d'ailleurs, après, du coup moi les lapins, mon éducateur lapin c'était Nepsi parce que du coup à chaque fois j'allais voir quand j'avais des grosses inquiétudes c'était Nepsi. C'est normal si le lapin il fait ça.
Ouais, bah c'est vrai que en fait c'est vraiment juste une question d'habitude, je trouve, les lapins. Donc après s'être renseigné sur le premier, le second lapin, ensuite on arrive beaucoup mieux à comprendre ce qui se passe dans leur tête et tout. Et après il y a aussi des sites qui sont géniaux pour ça, genre je pense à Marguerite et compagnie. Enfin non, maintenant c'est La Dure Vie du Lapin Urbain. C'est vraiment genre un site fantastique quoi, pour tout savoir sur les lapins, pour tout comprendre et puis pour leur offrir la qualité de vie qu'ils méritent et dans laquelle ils pourront être pleinement des lapins. Parce que souvent aussi, on a des a priori sur... c'est pas vraiment des animaux qui interagissent avec toi, qui vivent au quotidien et tout. Mais moi, mes lapins, ils sont en liberté totale et ils sont relous, quoi. Genre le matin, je me lève, ils sont au pied de l'escalier pour attendre leur granulé. Enfin, c'est vraiment des animaux qui peuvent... prendre part à la vie d'un foyer plus qu'on ne le croit, parce qu'on a cette image biaisée des animaux, des lapins qui sont en cage et qui ne réagissent pas, ou alors pour te mordre quand tu mets le doigt à l'intérieur. Quoi.
Ouais, alors justement, c'est quoi un lapin au quotidien?
Et ben c'est justement c'est des animaux assez têtus, donc assez routiniers aussi. Donc il faut faire, faut faire attention aussi à ça.
Très caractériel.
Ouais, très caractériel, ça c'est terrible. Genre moi, quand j'ouvre pas la porte de ma maison pour qu'ils puissent aller dans le jardin le matin, ils me le font savoir, ils font le pied de grue et tout, et il faut se dépêcher, sinon ils attaquent les chaussures qui sont à côté, quoi.
Ouais, c'est assez marrant parce que du coup, moi j'ai eu des chiens depuis que je suis tout petite, je crois que mes parents ont eu un chien quand j'avais un an, et depuis on a toujours eu des chiens. Et du coup, je voulais un lapin parce que je suis végé et je me suis dit, je veux un animal qui mange pas de viande. Voilà. Et c'est allé sur le lapin. Et en fait, c'est super... Déjà, les chats, je comprends pas les chats parce que j'ai jamais eu de chat. Et du coup, c'est super perturbant de réussir à comprendre le langage d'un nouvel animal, entre guillemets. Genre, c'est vraiment nouveau. Enfin, c'est vraiment différent. C'est des prédatés, les lapins. Donc, ils fonctionnent pas du tout de la même façon, quoi.
Et surtout, moi, par exemple, j'ai des lapins béliers. Et les lapins béliers, donc c'est ceux qui ont les oreilles tombantes. Oh, ils sont encore plus difficiles à lire, en fait, à décrypter. Parce que généralement, les lapins, ils ont des signaux avec leurs oreilles. Donc s'ils les mettent en arrière, c'est qu'ils ne sont pas forcément rassurés ou qu'ils vont charger et tout. Alors que là, on voit strictement rien. Donc il y a d'autres signaux, comme la posture et tout. Mais ça, c'est encore plus subtil. Donc ouais, il faut bien se renseigner avant.
Alors, le chat demande si les lapins sont affectueux. Moi, je veux juste mettre en garde contre les gens qui font des vidéos YouTube sur les lapins, où leurs lapins leur font des bisous tout le temps. Les lapins sont affectueux, mais ils vous feront pas forcément des bisous tout le temps. Les gens qui font des vidéos YouTube ont des relations fusionnelles avec leurs lapins, je sais pas comment ça se passe. Mais moi, mes lapins, ils veulent pas que je les porte. Ils supportent pas ça. Mais d'un autre côté, ils vont venir flopper à côté de moi quand ils dorment. Et, tu sais qu'ils t'aiment, même s'ils sont pas forcément...
Moi, je suis un peu pour dire que les lapins, c'est mes colocataires qui sont très sympas et qui je peux faire des câlins et tout, mais juste, ils font leur vie, moi, je fais la mienne et tout le monde vit en harmonie ici. Et c'est pas des animaux qui sont très collants, très... après, il y a des contre-exemples, des exemples où les lapins le sont, quoi, mais ça reste quand même assez rare. Quoi. Il faut pas s'attendre à des peluches...
Et donc, pour ne pas le citer, les lapins de vivre avec, c'est une exception. Parce qu'ils sont très collés à lui et tout. D'accord. Bah non, mais c'est
sur
bien
les
savoir,
quatre lapins que j'ai eus, effectivement, moi, j'en ai jamais eu aucun qui réclamait des câlins vraiment très, très, très collants. Quoi. Enfin, j'avais une petite lapine qui venait m'embêter et tout ça pour chercher des gratouilles, mais voilà.
J'avoue que moi, en regardant ces vidéos, je me suis dit, ah, ça a l'air trop mignon, trop câlin et tout. Mais c'est bien de dire aux gens que ça peut exister, mais c'est pas peut-être la majorité. C'est pas, ça va pas se faire automatiquement.
Quoi.
Ça dépend.
Ça dépend aussi du mode de vie, parce que je sais que Mathieu, de vivre avec, est quand même très présent.
Oui.
Et donc, forcément, la relation est beaucoup plus intense, et il y a beaucoup plus aussi de moments où les lapins peuvent venir vers lui pour être mignons et tout, alors que je sais que moi, je suis chez moi, mais je travaille, je ne suis pas forcément très... Et eux, ils sont dans le jardin, donc pareil, ouais, ils font leur vie, on n'a pas forcément de contact.
Je pense qu'il y a aussi, moi, ma chambre, elle leur est fermée, et je pense que toi aussi, Nepsi.
Ouais.
Et alors que Mathieu, les lapins viennent dans son lit, etc. Et forcément, si tu es allongé dans le lit et que le lapin est en train de faire le con autour de toi, bah, y a un moment où il va venir te sniffer et se coller à toi, etc. Parce que tu es aussi inactif dans le lit, donc tu es un truc à explorer aussi, quoi.
C'est vrai que c'est très curieux, les lapins.
Ouais. Le meilleur moyen d'intéresser mes lapins, c'est que je change une chaise de place dans le salon. Et tout de suite, il y a oh là là, il y a quelque chose
c'est
de nouveau.
Nouveau.
Ils sont pas très fins, mais c'est pratique. Au moins, ça se dit très facilement.
Et moi, j'ai toujours entendu dire, enfin, pas toujours, mais récemment entendu dire qu'il ne faut pas avoir un lapin tout seul.
Ouais, ça c'est vrai. Enfin, moi, je suis aussi adepte de ça. Et effectivement, c'est des animaux grégaires, donc ils ont besoin de compagnons de la même espèce, quoi, pour pouvoir interagir et être plus détendus. Et enfin, quand la cohabitation peut se faire, ensuite, c'est vraiment super de les voir interagir entre eux et être beaucoup plus apaisé, je trouve.
Après, il faut être prudent, parce que du coup, moi, j'ai deux lapins, parce que j'ai pris un autre lapin à la fin du premier confinement, parce que je me suis dit, Noun, elle va être triste quand je vais repartir travailler, parce qu'elle va être toute seule, alors qu'elle était habituée à moi. Et du coup, ils vivent toujours pas ensemble. Enfin, genre, ils vivent dans le salon tous les deux, parce que j'ai deux enclos, mais je les mets pas ensemble, parce qu'ils se bagarraient, et du coup... Ça fait un moment que j'ai pas refait de rencontre parce que du coup j'attends qu'ils soient paisibles quand ils sont dans la même pièce. Mais du coup ils se bagarraient et du coup dans une bagarre mon copain a voulu les séparer. Il en a attrapé un et il a fini avec 7 points de suture à la main.
Ok.
Parce que en fait le lapin l'aurait pas mordu s'il avait su que c'était lui, mais du coup il était en pleine bagarre et du coup Et du coup, ouais, ça fait assez des.
Et donc, pour reprendre, désolée, moi je parle beaucoup de vivre avec parce que c'est ma référence
là. Oui, c'est la référence.
Donc, c'est pas exagéré le fait que, après tant de temps, Jean-Jean et Clémentine ne peuvent pas être ensemble, quoi. Il faut vraiment faire attention.
Ouais. Après, normalement, il y a toujours une façon de procéder qui permet de les faire s'entendre bien. Mais je crois que Jean-Jean est tellement habitué à être seul avec lui. Pardon.
Oui, tout dépend. Mais voilà, il faut savoir que vous pouvez ne pas arriver à mettre de lapins ensemble. Quoi. C'est...
Ouais, exactement. C'est
donc avoir de la place.
Et justement, ouais, les associations, quand on adopte un second lapin, ils sont très... très regardant là-dessus et il demande expressément à ce qu'il y ait au cas où une pièce pour le second lapin, enfin voilà, qu'il y ait des territoires qui puissent être séparés durablement et assez de temps pour accueillir ce second lapin comme si c'était un lapin tout seul aussi, parce que si jamais ça fonctionne pas, il faut bien gérer aussi.
Ouais, et du coup, par contre, les assos, elles sont cool parce que, enfin, du coup, moi, Robinson, je dis que c'est mon lapin, mais en soi, je ne l'ai toujours pas adopté officiellement. Je suis famille d'accueil en vue d'adoption parce que, du coup, ils m'ont laissé avoir un lapin et tant qu'ils ne vivent pas ensemble, en fait, si jamais ça se passe mal, je peux le rendre à l'asso. Il y a aussi ce côté-là qui est pratique avec les associations, c'est qu'ils sont OK pour faire des tests. Après, même si ça passe pas bien, je garderai Robinson parce que, voilà, c'est fini pour moi, mais voilà.
Il t'a eu.
Ouais. Carrément.
Et niveau liberté, parce que on voit beaucoup, il y a la cage. Est-ce qu'il faut leur laisser, ils peuvent vivre beaucoup dans une cage ou pas? Est-ce qu'il faut quand même de l'espace ou bien liberté totale? Comment on peut faire? Si on a d'autres animaux, par exemple, est-ce qu'ils peuvent quand même rester la plupart du temps dans la cage ou pas?
Non, pas de cage. Okay. Non, pour de vrai, la cage, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment à bannir, en fait. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est des enclos. Y a notamment les cages binge, je crois, c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin bref, où c'est des grilles qu'on assemble les unes aux autres pour pouvoir faire des enclos modulables Et c'est vachement pratique. Moi, je sais que j'avais ça à un moment. Et ensuite, même s'ils sont en enclos, ils ont besoin minimum, je crois, de 4 heures de sortie par jour. Donc, en gros, vous rentrez, vous laissez sortir votre lapin, quoi. Et il y a aussi la possibilité de la liberté totale. Moi, c'est ce que je fais. Pourtant, j'ai deux chiennes aussi qui sont donc en liberté. Tout le monde partage le même espace. Et la cohabitation se passe super bien, mais parce que les présentations ont été très bien faites. Et voilà quoi, c'était les lapins vivent ici. Toi, le chien, tu arrives sur leur espace, tu dois respecter. Et voilà, ce sont des membres de la famille. Et voilà, comme ils n'iraient pas manger le petit dernier. Enfin, voilà, c'était juste la base quoi. Donc il faut faire les présentations, être très prudent et laisser le chien. Enfin, les lapins s'adapter à la présence du chien plus que l'inverse. Enfin, être très très vigilant, ouais.
D'accord. Et un jardin, puisque moi j'aurais peur de laisser le lapin dans le jardin, et il pourrait partir dans un trou, je sais pas.
C'est vrai. Moi, ça a été un critère pour ma maison. En fait, quand je l'ai visité, j'ai tout de suite vu que le jardin était clos. Genre, il y avait aucun risque parce que déjà on n'a pas de terre. Non, parce que nous, on habite en troublot, donc c'est la roche directement dans le jardin. Donc, pour creuser, ils peuvent se lever tôt, comme on dit.
Oui, il faut qu'ils soient motivés.
Ouais, donc effectivement, c'était un critère vraiment assez important dans ma décision de vivre ici. Mais après, les jardins, c'est pas forcément obligatoire. Hein. Enfin, les nôtres sont très heureux d'y aller, mais ils ont vécu... Pipuche a vécu en appartement pendant 5 ans, il n'y a pas eu de soucis, quoi. Ça se fait très largement.
Les miens vivent en appartement aussi.
Oui, ils sont très heureux, enfin, voilà, c'est un bonus, mais ce n'est pas rédhibitoire.
Du coup, on va arriver au bout du temps en partie. Je ne sais pas si vous avez un message que vous voudriez...
Ah ouais, moi je veux bien dire quelque chose.
Vas-y.
Tous les camarades qui nous écoutent et tout, si vous entendez des gens faire des blagues sur nos lapins, en disant il faut passer à la casserole ou lapin à la moutarde et tout, non, enfin faut arrêter quoi, c'est pas drôle, on parle de nos animaux et tout, donc s'il vous plaît, enfin voilà, on essaye de moi j'essaie de le dire aux gens quand ils me font des blagues, genre bah je trouve pas ça drôle, voilà, c'était juste mon petit
Et moi réfléchissez bien et écoutez les gens qui vous déconseillent quand vraiment vos conditions le permettent pas, parce que ça peut amener à des situations un peu tragiques. Et voilà, réfléchissez bien, écoutez les gens et dites-vous que les gens, quand ils vous déconseillent, c'est pas forcément pour vous enquiquiner, c'est pour penser au bien-être, le bien-être animal en priorité.
Et du coup, moi, je vais mentionner le fait que j'avais parlé de mes lapins dans l'émission Santé mentale. Et c'est sûr qu'ils m'ont aidé à pas sombrer au fond du trou quand j'étais dépressive. Mais du coup, depuis que je suis sous antidépressant, je m'en occupe vachement mieux. Les lapins ne soigneront pas votre dépression. Si vous allez mal, ils aident, mais ils suffisent pas. Donc voilà. Et se soigner, ça permet de mieux s'en occuper après. J'espère que si vous prévoyiez avant d'adopter un animal, on ne vous a pas fait peur. Ils sont quand même top et il y a plein d'assos qui vous attendent. Merci à Elvire d'avoir préparé l'émission avec moi.
Mais de rien, merci à Eb.
Et merci beaucoup à Nepsi du coup d'avoir accepté l'invitation.
Et ben merci à Radio Pirate.
Merci à Circe à la technique et Monsieur B à la modération. Hier c'était la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, donc on va vous laisser sur une capsule liée à cette thématique. Prenez soin de vous, de vos animaux, de vos proches et bonne soirée.
Dans des situations de confinement, les violences conjugales et intrafamiliales s'accentuent. Confiné avec un conjoint, un père violent, le risque peut être plus grand. Mais vous n'êtes pas seul. S'il est déconseillé de sortir, il n'est pas interdit de fuir. Si vous ou l'une de vos proches est victime de violences à son domicile, il existe des numéros, des associations que vous pouvez contacter. Le 3919 est le numéro gouvernemental contre les violences faites aux femmes. Vous pouvez également contacter Viol Femmes Information au 0800 05 95 95. Ces deux numéros vous accompagneront en ce qui concerne des démarches de plainte, d'éloignement ou simplement pour des conseils. Si vous ou votre proche résidez en Île-de-France, le centre Hubertine Auclair met à votre disposition sur Internet une carte des associations qui accompagnent sur orientationviolence.hubertine.fr. Où que vous soyez, vous pouvez aussi contacter le planning familial le plus proche. Vous n'êtes pas seul.